Andrea Missesa-Noro, donc bonjour.
Bonjour.
Et donc, vous êtes spécialiste de programme éducation à l'UNESCO à Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Journée internationale de la langue maternelle, mais aussi de la langue maternelle en général et du multilinguisme. Donc, on sait que la langue maternelle est l'un des premiers moyens de traduire le sens du monde et pour l'enfant de comprendre son environnement. Donc, comment la langue maternelle aide dans le développement justement d'un enfant?
Alors, il y a le développement qu'on appelle socio-émotionnel ou non cognitif, et il y a le développement cognitif. Et si on ne parle pas, si l'enfant n'a pas une langue, déjà, il n'est pas dans la société puisqu'on nous a donné cette faculté par rapport aux animaux. Donc, en fait, l'UNESCO définit la langue maternelle selon des situations différentes. Je peux vous donner quelques exemples. C'est la langue qu'on apprend en premier, c'est la langue qu'on emploie le plus, c'est la langue dont on s'identifie ou les autres nous identifient comme locuteur natif ou locutrice native. Et en fait, c'est une large définition de la langue maternelle. Et d'ailleurs, on devrait dire les langues maternelles, parce que si j'ai un papa dont la langue maternelle est différente de celle de ma maman, j'ai deux langues déjà. Et aussi, peut-être dans le pays où je vis, la langue utilisée est différente que les langues que j'entends à la maison. Donc, on peut dire que j'ai trois langues maternelles, donc selon les situations. Alors l'enfant, évidemment, il s'exprime avec cette langue qu'il entend le plus souvent ou qui est dans son milieu familial ou dans la société. Il communique avec cette langue. Il a l'acquisition, il acquiert les fondamentaux, comme on dit, de lecture et d'écriture dans cette langue. Donc, ça participe à son développement puisque c'est une langue avec laquelle il s'exprime, il apprend ce qu'il y a autour de lui. Et il communique avec ceux ou celles qui sont autour de lui. Et c'est une langue pour acquérir les connaissances de base.
Mais je pense que c'est aussi un moyen de transmettre justement les cultures et les valeurs et le savoir traditionnel. Donc, comment est-ce possible? Comment c'est traduit justement par la langue maternelle?
Oui, la langue, c'est un moyen de transmettre
Bien
les
sûr.
valeurs. La culture, le savoir traditionnel, c'est beaucoup de choses. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi pour transmettre les connaissances. Est-ce qu'on va mettre les valeurs, la culture et le savoir traditionnel dans ce qu'on entend par les connaissances? Je dirais que c'est plutôt vrai ou ça s'applique plus dans les traditions orales, alors les sociétés où les langues ne sont pas écrites et tout se transmet, cela se transmet oralement et peut-être plus de façon, je dirais, informelle ou non formel, mais pas forcément dans la salle de classe ou dans l'enceinte de l'école. Donc, la langue maternelle ne sert pas que pour ça. C'est un moyen parmi tant d'autres de transmettre la valeur, la culture, le savoir traditionnel, mais aussi les connaissances. Et tout dépend de ce que l'on entend par connaissance.
Et le thème de cette année est l'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue. Donc, comment justement la technologie peut aider dans l'éducation multilingue?
Alors, il y a technologie et technologie. Donc, on parle des nouvelles technologies depuis les années 90 et aussi peut-être la technologie, les technologies beaucoup plus traditionnelles comme la radio et la télévision et les nouvelles technologies qui ne sont plus du tout nouvelles. C'est Internet, le portable, le téléphone portable, l'ordinateur, je veux dire. Pour moi, je trouve que la force des nouvelles technologies, c'est cette interactivité, c'est la fluidité, la flexibilité, le fait qu'elles dépassent les frontières. On a ça aussi avec la radio et la télévision, mais c'est moins interactif. Alors, l'enseignement multilingue, l'éducation multilingue, selon l'UNESCO, c'est l'emploi de la langue maternelle ou la langue première ou primaire, la langue qu'on apprend en premier. Une langue régionale ou nationale ou de grande communication et idéalement une langue internationale. Ça permet en fait d'être dans une situation réelle, je dirais, qu'on n'a pas forcément avec un livre, avec un manuel scolaire. Là, si on veut apprendre l'espagnol, je dirais, on peut entendre l'espagnol en Espagne, l'espagnol dans d'autres régions comme l'Amérique du Sud, donc on zappe d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un accent à l'autre. Chose qu'on n'a pas forcément avec un enseignant à l'intérieur d'une salle de classe. Mais je tiens à dire que dans l'enseignement des langues, la technologie doit être au service de l'enseignant ou de l'enseignante et non pas l'inverse. Alors, ça reste un outil d'aide à l'apprentissage des langues, mais non pas l'inverse, encore une fois. Donc, le potentiel de cette technologie, pour moi, c'est cette interactivité, c'est d'entendre les langues telles parlées dans une région ou dans une autre. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, les enfants, les jeunes, ils utilisent beaucoup les technologies, mais en dehors de l'enseignement formel, en dehors des salles de classe. Et j'ai l'impression qu'ils apprennent beaucoup plus vite. C'est ce potentiel de la technologie qui permet que on est peut-être plus plurilingue. Maintenant, je ne peux pas parler de qualité. Est-ce qu'on parle bien? Bon, là, ici, il ne s'agit surtout pas de grammaire ni d'orthographe, mais peut-être plus dans la communication. Peut-être qu'on communique beaucoup plus vite, que ce soit peut-être par écrit ou plutôt oralement, avec la nouvelle technologie.
Oui, comme par exemple avec tous les logiciels que l'on peut utiliser, même comme Google Translate. Je pense que les gens se lancent plus à parler une autre langue parce qu'ils ont cette aide, justement. Donc, ça aide à la communication, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je dis que c'est la force, peut-être une des grandes forces de la technologie, c'est cette communication orale qui est vraiment facilitée par tous ces logiciels comme Babel, etc., qui n'était pas possible il y a 30 ans. On était dans un laboratoire de langue avec des situations vraiment artificielles. Alors que là, si moi, je regarde la télé, je vais au Canada, aux États-Unis, j'ai en direct la situation, le contexte, voilà, et la langue qui me permet de comprendre ce qui se passe et aussi d'apprendre, d'enrichir la langue que j'apprends et qui n'est peut-être pas encore possible dans le formel dans plusieurs pays du monde qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas un problème de courant, etc., et aussi de ressources financières et techniques.
Donc, on parle bien sûr du multilinguisme, mais on va peut-être revenir justement sur les langues maternelles qui, hélas, disparaissent. Donc, a-t-on justement des chiffres sur cette disparition des langues maternelles?
À ma connaissance, non. On n'a pas de chiffres, malheureusement. Et là, en fait, oui, il y a des langues qui disparaissent. On parle de la mort des langues. Mais ce que je veux dire, c'est que Internet a ce potentiel de promouvoir la diversité linguistique. Mais en même temps, une langue qui n'est pas représentée sur Internet, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle disparaît. Simplement, sur les quelques 6000 langues parlées, je ne sais pas combien sont sur Internet. Et c'est pas parce qu'une langue n'existe pas sur Internet qu'elle n'existe pas ou qu'elle disparaît. Donc, il y a cette double face d'Internet, si vous voulez, parce que quand une langue n'est pas représentée, ça ne veut pas forcément dire qu'elle disparaît. Mais c'est certain qu'il y a des langues qui disparaissent dans le monde. Mais encore une fois, on peut peut-être être surpris quand on va dans certaines régions ou dans des pays reculés du monde de constater que c'est pas parce qu'on l'entend pas, qu'on le parle pas, que cette langue a disparu. Mais c'est parce qu'on connaît pas. Voilà.
Donc, est-ce que peut-être l'Internet pourrait aider justement à promouvoir ces langues un peu inconnues, n'est-ce pas?
Oui, l'UNESCO a il y a un grand programme qui est la présence des langues sur Internet. On a ce grand programme de prévention contre la disparition des langues. L'UNESCO a publié l'Atlas des langues en danger. Et avec plusieurs critères, justement, comment faire pour qu'une langue ne disparaisse pas. Et en même temps, si vous voulez, il y a des critères scientifiques pour mesurer quel est le danger d'extinction, de disparition d'une langue. Donc, oui, l'UNESCO s'est saisie de cette question depuis plusieurs années maintenant.
Est-ce que si une langue disparaît, est-ce qu'une certaine identité d'une certaine partie de la population qui s'éteint ou qu'est-ce que vous pensez de cette phrase?
Alors, une partie de l'identité, est-ce qu'on définit son identité uniquement par rapport à la langue? Je ne suis pas certaine. Donc là, je suis assez prudente parce que je trouve que se définir uniquement par rapport à la langue, c'est peut-être un peu limité. Ça renvoie à d'autres sphères qui n'est pas du domaine peut-être de l'enseignement ou de l'éducation, mais qui est peut-être d'ordre politique ou une autre revendication qui n'est pas... C'est pour ça que je suis assez prudente sur cette question.
Donc, justement, comment, selon vous et l'UNESCO, peuvent préserver et promouvoir la langue maternelle? Que faites-vous, justement, à l'UNESCO?
Alors, on fait beaucoup de plaidoyer, de sensibilisation, par exemple par la journée de la langue maternelle. On fait appel à nos États membres pour que le jour de la célébration et après la célébration, les langues qui existent dans les pays soient promues dans plusieurs domaines du sphère public. Ce n'est pas que l'éducation. Il y a la culture, il y a tout ce qui est, je dirais, domaine administratif, il y a le théâtre, il y a le cinéma. Là-dessus, dans le plaidoyer qu'on fait, justement, dans la prévention de l'extinction, de la disparition d'une langue, il y a la transmission intergénérationnelle qui est très importante, donc ça fait partie de la sensibilisation. Il y a l'emploi des langues dans l'éducation. Donc ici, on parle de politique linguistique, enseigner les langues ou enseigner dans les langues. Il y a aussi, évidemment, et là, j'insiste là-dessus, la volonté des locuteurs natifs et des locutrices natives à promouvoir eux-mêmes ou elles-mêmes leur langue maternelle. Parce que la perception qu'on a souvent de sa langue maternelle est assez biaisée, je veux dire, parce que on pense que quand une langue ne fait pas partie des grandes langues de ce monde, on ne se vend pas avec cette langue. Par là, je veux dire, on ne trouve pas de travail, on ne peut pas, peut-être pas, comment dirais-je, moi je suis malgache, donc quand je sors de Madagascar, j'ai besoin d'une autre langue. Alors on se dit, bon voilà, ce n'est pas aussi important. Donc là, il y a une perception qui, je dirais, est à revoir par rapport à tout ça. Voilà. Et bien sûr, il faut des moyens, des ressources financières et techniques pour qu'on puisse les promouvoir aussi bien dans la culture que dans l'éducation, dans d'autres domaines, la médecine, l'administration, la traduction, voilà.
Oui, hélas, le monde devient de plus en plus global et donc il y a que certaines, on parle beaucoup de l'anglicisme, des langues. Et est-ce que justement, vous, en étant spécialiste de l'éducation, vous renforcez le multilinguisme et les langues maternelles? Et comment justement peut-on appliquer cela dans l'éducation?
Alors, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'éducation multilingue, pour l'UNESCO, signifie l'emploi de trois langues au moins. Et dans ces trois langues, il y a la langue maternelle ou la langue première ou la langue primaire ou voilà, selon les situations différentes. Après, une langue nationale qu'on peut qualifier de langue d'État ou de langue officielle. Et en troisième position, idéalement, mais c'est ce qui se fait souvent, c'est une langue internationale, puisque c'est des grandes langues qui ont donc les moyens aussi dans lesquels une grande partie du monde communique. Alors, l'UNESCO, dans ses activités de plaidoyer, de sensibilisation, a développé des stratégies, des plans d'action, des principes directeurs, comment appliquer justement l'éducation multilingue et que l'on diffuse. Ce sont des documents, si vous voulez, qui sont faits, qui ont été produits par des experts, pas par l'UNESCO en tant que secrétariat, mais des experts en langue qui savent comment mettre en œuvre une politique linguistique mettant l'accent sur l'enseignement dans la langue maternelle ou l'enseignement des langues maternelles. L'UNESCO s'est lancé dans cette aventure depuis presque son existence, puisqu'on a sorti un premier document en l'utilisation des langues vernaculaires en éducation. Donc, je pense, si je ne me trompe pas, ça date des années, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'était même en 49, mais il y a très longtemps déjà que l'UNESCO se bat pour la défense de la diversité linguistique et aussi de l'emploi, donc de l'éducation multilingue. Justement.
Souvent, on a vu avec les mouvements de population que souvent, il y a des générations qui soit déménagent dans un pays ou autre et qui oublient leur langue maternelle. Ils n'apprennent plus la langue maternelle à leurs enfants. On comprend quelle est la raison, parce que pour des raisons soit politiques ou autres, ils ne veulent pas enseigner cette langue aux enfants. Mais justement, on parlait d'identité. Est-ce que ce n'est pas enlever une certaine identité à ces enfants, dans un sens?
Alors, c'est une question qui n'est pas facile, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette transmission intergénérationnelle. Il y a aussi la perception. Et qu'est-ce qu'une identité? Donc, justement, est-ce qu'on peut avoir plusieurs identités? Je pense que oui. Je suis un exemple parfait puisque je suis malgache, je vis en France, en Europe depuis un certain nombre d'années. Je parle couramment ma langue, je l'écris. Quand je suis arrivée en France, je parle français, ça fait plusieurs années, j'écris le français, je maîtrise parfaitement, je pense, aussi bien le malgache que le français. Donc, est-ce que j'ai deux identités? C'est possible. Il n'y a pas de contradiction pour moi, le fait de parler français et de parler malgache et peut-être d'avoir cette double identité. Et je pense que les parents ont une grande part de responsabilité dans cette transmission de la langue, parce que si les parents eux-mêmes n'ont pas une bonne perception de ce qu'ils entendent par langue maternelle. Alors, les enfants, bien sûr, n'ont pas non plus envie d'apprendre cette langue. Mais est-ce que pour autant, ils perdent leur identité? Je ne sais pas.
Et peut-être justement, en dernière question, vous avez parlé que vous êtes malgache. Donc, que représente pour vous votre langue maternelle, justement?
Alors, c'est pour moi synonyme de convivialité, peut-être de proximité, dans le sens que ça fait du bien de parler malgache quand on n'est pas chez soi, entre guillemets. Ma langue maternelle me permet de m'exprimer beaucoup plus facilement dans certaines situations, parce que sinon, il faut que je réfléchisse, que je passe du malgache au français à l'anglais. Et donc, il y a toute une étape qui n'est peut-être pas spontanée, alors que dans sa langue maternelle, on a peut-être plus cette facilité de communiquer, de s'exprimer sans qu'on réfléchisse. Comment se faire comprendre par la personne qui est devant soi si on s'exprime dans une langue qui est autre que sa langue maternelle? Et ça, c'est tout un travail quand même cognitif, même si ça ne se voit pas. Mais je pense que pour tout le monde qui a plusieurs langues, et d'ailleurs, apparemment, on ne peut pas être plurilingue dans le sens qu'on n'a pas le même niveau dans la langue 1, dans la langue 2 ou dans la langue 3. Et même le bilinguisme parfait, ça n'existe pas parce qu'on ne maîtrise pas de la même façon deux langues.
Donc, Andrea Messessa Noro, donc peut-être auriez-vous un dernier message justement pour cette journée internationale de la langue maternelle?
Oui, donc il faut aimer la langue maternelle, les langues maternelles, les promouvoir en les parlant si on ne les parle pas, les promouvoir d'une autre façon, faire en sorte que ça soit utilisé dans autant de domaines que possible, la culture. Dans la culture, je mets le théâtre, le cinéma, la lecture, l'écriture, autant de moyens qui sont disponibles et selon nos moyens financiers, techniques, les moyens qu'on a, tout un chacun, chacune à notre disposition, et voir les langues maternelles comme d'autres langues. Ce sont des langues, et ne pas être bloqué par le fait que c'est une langue maternelle qui est d'ailleurs assez contestée, parce qu'on nous dit dans certains pays, ce n'est pas la langue maternelle qu'on transmet, c'est la langue du père. Et c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler que l'UNESCO définit la langue maternelle selon des situations différentes.
Madame Noro, bonne journée internationale de la langue maternelle qui est le 21 février.
Je vous remercie et bonne soirée.
Au revoir.
Merci. Au revoir.